Auditeurs et auditrices, bonjour et surtout bienvenue dans Patara, l'émission politique de votre radio consacrée à ce qui reste du rôle des garants et facilitateurs de l'accord de paix depuis son entrée en vigueur en février 2019. La mise en œuvre de l'accord de paix relève chaque jour des insuffisances. Insuffisances caractérisées par les violations récurrentes des dispositions de l'accord. Les menaces des facilitateurs et garants de l'accord s'avèrent infructueuses jusqu'à présent. La communauté internationale tergiverse, les groupes armés s'agitent, créent ainsi la psychose et le mouvement de la population civile. Seul le gouvernement et la communauté internationale demeurent convaincus de l'effectivité de sa mise en œuvre dans les zones sous contrôle des groupes armés. Sur le terrain, la situation montre son contraire. Après les violations des 3 heures dans l'Ampende, les hommes de l'UPC parlent le soin d'une note adressée à la MINUSCA. Le leader de l'UPC, Ali Darassa, a pris le soin d'informer l'institution onusienne de sa volonté de contrôler la partie est du pays. Une sortie en dehors de leur périmètre initial en violation des dispositions de l'accord qu'ils ont signé avec le gouvernement. Mieux, le harcèlement militaire de l'UPC à Bambouti sous prétexte de protéger la communauté Peul ne rassure pas la classe politique et les organisations de la société civile. Les ressortissants du Hombomo, en condamnant la position de l'UPC, évoquent le risque du génocide. Le gouvernement n'a pas tardé à réagir et condamne. La communauté internationale, à savoir les garants et les facilitateurs, ont condamné. Tout le monde condamne donc, mais personne n'agit. Question ? Qui du gouvernement et des garants doit imposer la violence légitime en cas de violation de l'accord? Qu'est-ce qui peut justifier la passivité des garants face aux violations répétées de l'accord? La communauté internationale est-elle prise dans le piège au point de servir de caution à ce que l'opposition qualifie de deal politique entre les groupes armés et le gouvernement? Jusqu'où vont les facilitateurs considérés comme le dernier rempart face à la violation de l'accord? Ce sont là quelques interrogations faisant objet de nos discussions de Patara cette semaine consacrée à ce qui reste du rôle des garants et facilitateurs de l'accord de paix signé entre le gouvernement et les groupes armés à Khartoum et à Bangui. Pour en parler, nous avons autour du plateau M. Eric Sohongope Zoumandi, ancien ministre et ancien député. Il est le président du mouvement national de salut, parti proche du pouvoir. M. Eric Sohongope, bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi l'honorable député Ernest Misedio, député URCIA de Obo dans le Hombomou, parti fil de l'opposition démocratique. Monsieur Ernest Misedio, bonjour.
Bonjour Jean Conan.
Nous avons Maître Albert Panda Bianimbi, représentant de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme OCDH. Maître Panda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de la société civile, bien sûr.
C'est ça.
Nous avons aussi l'ambassadeur Adolphe Nayo, représentant de la CAC. Monsieur Adolphe Nayo, bonjour.
Bonjour.
Au centre de l'émission, je suis Jean-Fernand Kouina. Je bénéficie de la complicité technique de Herman Nambona, assisté de Anne-Alix Pounimati. Émission Patara, c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Avant d'entrer dans le vif de notre débat, nous avons une pensée pour les victimes aussi dans le Hombomou et nous allons donner la parole à l'honorable Misedio. Monsieur le député, vous qui avez réagi au nom des ressortissants du Hombomou, comment pouvez-vous aujourd'hui expliquer la volonté de Ali Darassa d'aller vers le Hombomou que vous avez qualifié de génocide?
Je vous remercie Jean Conan. Justifier, expliquer. On ne peut pas justifier ni expliquer ce que Ali Darassa et ses éléments sont en train de faire aujourd'hui dans le Hombomou. Parce que vous vous souviendrez que depuis l'avènement de la Seleka, puis des anti-Balaka en République centrafricaine, Obo, Bambouti, Zemio, je veux dire tout le Hombomou est resté passif. On a essayé d'éviter la guerre dans le Hombomou. Ensuite, Ali Darassa a envoyé ses éléments pour aller s'installer à Mboki. On ne sait pas pourquoi, puisque de toute façon, on n'en a pas besoin là-bas. Et récemment, j'étais à Obo, j'ai passé 2 mois là-bas, 61 jours, et nous avons appris que les éléments de Ali Darassa étaient en train de se diriger vers Bambouti, soi-disant pour aller protéger les Peuls, ainsi de suite. Mais je vous dirais que les Peuls eux-mêmes se plaignent de la présence des éléments de Ali Darassa dans ces environs-là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas justifier la présence de l'UPC dans le Hombomo. Ça ne peut pas se justifier, ça ne peut pas s'expliquer.
Ça ne peut pas se justifier, ça ne peut pas s'expliquer. Monsieur Eric Songo-Pezumandi, vous, observateur, acteur principal de la vie politique, comment aujourd'hui vous faites l'analyse de la volonté de l'UPC d'annexer aujourd'hui la zone de Hombomo?
Merci. On ne saurait justifier l'action des groupes armés. Autrement dit, on ne saurait justifier l'occupation du terrain par les groupes armés. Ces groupes armés sont venus au travers la Séléka et ensuite les Antibalaka, qui ont agi en rétorsion, occuper une bonne partie du territoire centrafricain. Même Bangui était occupé. Ils y ont été chassés. Et se sont repliés dans l'arrière-pays. Nul ne peut justifier l'action des groupes armés. Et ces groupes armés ont bénéficié de ce que j'appellerais des moyens de force, même illégitimes. Autrement dit, il y a une question de rapport de force qui s'est posée et qui se pose. Si l'État souverain disposait des moyens de chasser ces groupes armés, qu'on n'aurait pas à débattre ou bien à mettre en place une stratégie particulière pour les convaincre de désarmer.
Vous parlez de manque de moyens pour le gouvernement aujourd'hui, mais aujourd'hui, beaucoup sont ceux qui pensent que c'est une question de volonté politique pour le gouvernement de faire face à ces défis.
Nul chef d'État, nul gouvernement ne saurait laisser massacrer son peuple. Ce serait suicidaire. Je vous dis que c'est une question de rapport de force. Vous disposez de la force légitime, vous boutez hors de votre territoire les ennemis du peuple. C'est ce que j'entends, rapport de force.
Aujourd'hui, vous parlez de rapport de force. Monsieur l'ambassadeur, tout le monde aujourd'hui a les yeux rivés vers les garants et les facilitateurs. La preuve, c'est que toutes les organisations, que ce soit au sein de la classe politique, que ce soit au niveau de la société civile, tout le monde appelle les garants à user de la force légitime pour frapper ceux qui violent les dispositions de l'accord. Mais jusque-là, la communauté internationale sur qui compte le peuple centrafricain aujourd'hui est restée passive. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui qui doit aujourd'hui frapper les groupes armés?
Je vous remercie. Je crois qu'il y a une erreur d'interprétation au départ. Les garants n'ont pas de force. Les garants sont un organe institutionnel, diplomatique et de dernier recours. La mise en œuvre de l'accord incombe d'abord au comité préfectoral de mise en œuvre, ensuite au comité national de mise en œuvre. Et les garants interviennent au niveau du comité exécutif de suivi, qui est le dernier recours. Et dans le comité préfectoral de mise en œuvre, il y a entre autres les autorités territoriales, il y a les forces de défense et de sécurité nationale, il y a les groupes armés, de même que dans le comité national de mise en œuvre. C'est la même chose dans le comité exécutif de suivi, sauf que dans ce dernier, il y a maintenant les garants, les facilitateurs et la communauté internationale. Donc on ne peut pas chaque fois dire les garants, les facilitateurs, sans avoir épuisé toutes ces étapes. Bon. Et quand vous dites que la force est légitime...
Donc vous placez aujourd'hui la réponse dans un processus.
Absolument. Et quand on parle de force légitime, je crois qu'aujourd'hui, l'UTM et la coopération russe ont déjà recyclé au moins 4 bataillons. Les Russes et la France ont déjà délivré au moins 5000 tonnes d'armes. Je crois que ces effectifs, ces armes, combinées à l'action de la MINUSCA, devraient au moins protéger les populations civiles partout où c'est nécessaire. Mais le problème, c'est lequel? Honorable vient de dire qu'il a passé 2 mois chez lui. Et c'est une bonne chose, parce que ce n'est pas beaucoup de députés qui font ça. Je suis désolé, maintenant je connais le pays. Si vous voulez aller dans le Hombomo aujourd'hui par voiture, vous faites combien de temps? Parce qu'une armée, pour se déplacer, doit avoir les routes, doit avoir les ponts. On l'a vu quand, malheureusement, la population peut a été massacrée à Bangassou. La MINUSCA a envoyé les forces spéciales sénégalaises. Et ils ont passé 20 jours parce que, d'abord, les routes étaient difficilement praticables. Deux, les ponts, à l'époque, les anti-balaka ou les autodéfenses ont tout cassé. Donc, il faut que quelque part, tout le mécanisme fonctionne pour permettre au gouvernement et aux partenaires internationaux de protéger la population.
Monsieur l'ambassadeur, vous conviendrez avec moi que c'est avec ce même état de route que les groupes armés ont eu à progresser. Et aujourd'hui, la MINUSCA, qui suppose être la branche armée des garants et des facilitateurs, dispose des moyens aériens pour pouvoir agir.
Bon, je ne suis pas de la MINUSCA pour maîtriser tout le dispositif, mais vous savez que les groupes armés se déplacent et à pied et à moto. Malheureusement, les conditions d'engagement de la MINUSCA ne permettent pas à ces éléments, à part les patrouilles dans les villes ou dans les villages, ne permettent pas à ces éléments de combattre à pied ou de combattre à moto. C'est aussi une question d'engagement.
Ok, Maître Albert Pandak Bianimbi, quand vous écoutez l'ambassadeur, quand vous écoutez l'honorable Mizedio, quand vous écoutez aussi le ministre Sorongopé, en quoi cela vous inspire finalement le rôle de garant et de facilitateur et à qui le peuple aujourd'hui peut se référer?
Enfin, avec votre permission, avant de reprendre à votre question, j'aimerais que Monsieur l'ambassadeur nous précise qui sont les garants, qui sont les facilitateurs, et je vais enchaîner.
Mais c'est une question directe, Monsieur l'ambassadeur.
Écoutez, je suis étonné qu'il pose cette question 8 mois après la signature de l'accord. Ça veut dire qu'il n'a pas les droits de l'accord, donc je n'interviens pas.
Bon, okay. Les garants, c'est la CAC, c'est l'Union africaine, et nous pensons que derrière, il y a l'Union européenne, mais ces gens ne sont pas sur le terrain, n'ont pas de force combattante sur le terrain. Et sur le terrain, il y a qui? Ben, la MINUSCA, essentiellement. Monsieur l'ambassadeur a parlé de 5000 tonnes des armes données aux FACA, formées. Mais qu'est-ce qui se passe? Les FACA sont à Kagabandoro. Les FACA sont à Pawa. Les FACA ont envie d'intervenir, mais ne peuvent pas. Parce que sont confinés dans des camps sous contrôle de la MINUSCA qui ne les laisse pas agir comme la situation en fait l'appel, hein, le commande. Et c'est ça le véritable problème. On a beau former à EUTM, les Russes forment, mais que veut la MINUSCA effectivement dans ce pays?
Maître, j'ai envie de vous poser la question suivante. Hein, si on ne fait pas la comparaison de la raison, certes, mais au Congo démocratique par exemple, oui, c'était la même situation avec la MONUSCO, mais arrivé à un moment, la République démocratique du Congo a pris sa responsabilité pour que les FRDC soient au devant de la scène. Qu'est-ce qui aujourd'hui explique le fait que le gouvernement ne peut pas, avec tous les équipements reçus aujourd'hui des partenaires, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement de prendre sa responsabilité, de protéger ses citoyens, puisque c'est sa responsabilité première?
Écoutez, ce sont les arrangements entre le gouvernement et la communauté internationale. Que la MINUSCA laisse les FACA agir. Les FACA peuvent aller à pied, les FACA peuvent aller à moto, hein? Mais qu'on les laisse agir. On ne leur donne pas les moyens. Bon, il n'y a pas de route, mais il y a les avions. On peut les amener par hélicoptère, on peut avec les motos, tout ça. Mais on ne veut pas. On ne veut pas que les FACA, pour le moment, agissent. Pourquoi? Parce que si les FACA sont opérationnels, il n'y a plus de MINUSCA. Est-ce que vous comprenez la situation? Il faut que ça dure encore 20 ans. Voilà la situation. On est dans cette situation. La crise, on l'alimente. Parce que la RCA est devenue un fonds de commerce. On mange là-dedans. On mange sur notre sang, notre souffrance, notre misère.
Ok, vous accusez carrément la communauté internationale d'avoir alimenté la crise. Honorable Ernest Mizedio, en suivant le développement de M. l'ambassadeur qui dit clairement qu'aujourd'hui, le gouvernement est à même, dispose aujourd'hui quelques moyens pour assurer son rôle régalien de protéger la population et qu'aujourd'hui, on continue de massacrer la population civile. En quoi cela vous inspire finalement?
Je vous remercie. Moi, je suis tenté d'être d'accord avec l'ambassadeur. Parce que le gouvernement, je dirais le président de la République, est le seul garant de la sécurité nationale, de l'intégrité du territoire, de la défense, de la sécurité des biens et des personnes. Si nous regardons, si nous lisons la Constitution, à son article 33, alinéa 10, dit ceci. Le président de la République est responsable de la défense nationale. C'est clair, responsable de la défense nationale. Et quand on nous dit qu'il y a déjà 4 bataillons formés, il y a 5000 tonnes d'armes, et vous et moi, nous savons qu'avec un peu de volonté, on pouvait avoir plus que ça. Vous vous souvenez de tous les scandales que nous sommes en train d'enregistrer à gauche et à droite dans le pays, autour des mines, hein, pillé un peu partout, l'argent part où? Dans des poches individuelles. Que fait le gouvernement? Mais rien. Les Centrafricains sont en train de mourir. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Mais rien. En tout cas, à Obo, on a crié, à Bambouti, on a crié. Avant que Bambouti ne soit annexé, nous avons averti le gouvernement 1000 fois des risques d'annexion justement de cette sous-préfecture qui, je le rappelle, se trouve à la frontière entre la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, je le rappelle encore, est un pays en guerre où les armes pilulent. Alors, à partir de ce moment-là, une frontière comme celle de Bambouti, où vous ne trouverez aucun homme en armes venu de Centrafrique, ni gendarme, ni faka, ni policier. En tout cas, la frontière, si vous entrez par Bambouti, vous allez parcourir 105 km avant de trouver les faka. Les faka sont à l'entrée d'Obo, ça veut dire à 1 km de la ville. C'est là où se trouvent les faka. Vous n'allez les trouver nulle part. Vous entrez au sud du Sud-Soudan, vous entrez à Bambouti, vous parcourez 105 km sans trouver un seul élément faka, un seul gendarme, ni un seul policier jusqu'à Obo. C'est de la responsabilité de qui? Qui doit être responsable de ça? Je crois savoir que c'est le gouvernement. Ce n'est pas la MINUSCA qui a juré, qui a prêté serment sur la Constitution. C'est le président de la République. Le président de la République a prêté serment sur la Constitution. Si vous voulez, je peux vous lire les termes de ce serment dans la Constitution à son article 38. N'importe qui peut consulter ce serment. Le président de la République a pris l'engagement de protéger, de garantir la sécurité de chaque citoyen. Comment peut-on garantir la sécurité des citoyens s'il n'y a même pas un élément de force de défense dans une localité? Même pas un seul. C'est de la responsabilité de qui? Nous parlons ici de routes, mais il n'y a pas que les routes. Nous avons les fakas à Obo. Ces fakas qui sont à Obo n'ont pas de véhicule pour se déplacer. Récemment, quand j'étais là-bas, j'ai vu qu'ils avaient une Land Cruiser familiale où il n'y avait pas de batterie. Donc quand ils se déplacent la nuit, il n'y a pas de phare. Et quand ils s'arrêtent quelque part, il faut pousser pour que le véhicule puisse démarrer. C'est de la responsabilité de qui? Je suis convaincu que le gouvernement, avec un peu d'effort, peut arriver à résoudre ne serait-ce que ça comme problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement fait? Mais rien, mais absolument rien du tout.
Ok, le gouvernement ne fait absolument rien. Monsieur Eric Songo-Pezumanzi, est-ce que derrière tout ça, derrière l'inaction ou peut-être cette carence de volonté, n'a-t-il pas une motivation à but politique?
Vous savez, il y a parfois, on aurait l'impression de rire. Mais lorsque la vie des Centrafricains est en danger, on ne pourrait se permettre de rire de certains propos. Nous connaissons tous le contenu de la Constitution citée par mon jeune frère, collègue, puisque je suis député. Il y a la lettre de la Constitution. Il y a l'effectivité de la situation du terrain.
L'effectivité, c'est quoi finalement?
Je viens à cela. Prenons l'avènement du pouvoir de Touadéra en 2016. Est-ce qu'il y avait une force armée? Pourtant, cette Constitution existe depuis son avènement, puisqu'elle a été promulguée le 30 mars 2016. Et le président a juré sur cette constitution de protéger l'intégrité du territoire centrafricain, de protéger le peuple centrafricain. Est-ce qu'il avait les moyens en ce moment-là?
Mais c'est pas le...
On parle s'il pas vous passé, plaît... Non, 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 mais non.
On parle de la situation.
C'est une progression
temps.
Historique.
Oui, oui.
J'en viens. Ce que je sais, c'est que ce président a fait l'effort de créer la nouvelle armée centrafricaine, dont tout le monde reconnaît les capacités. En l'espace de 3 ans, nous avons 4 bataillons ou 5 bataillons, comme le dirait l'ambassadeur, aguerris, ce qui n'existait pas à l'avènement du président Touadéra. Que de paroles sont passées pour qu'on arrive à débloquer une partie de l'embargo afin que cette armée puisse se doter de moyens militaires. À l'époque aussi, lorsqu'il n'y avait qu'un seul bataillon, et pas d'armes, Touadéra. Et certains étaient tentés de le pousser à cela. Il aurait pu envoyer une partie de cette armée sur le terrain. Je vous assure qu'il y aurait massacre. Et on allait accuser le président Touadéra d'avoir envoyé ses militaires à la boucherie. Voilà la réalité.
Mais aujourd'hui, quelle est la...
Aujourd'hui, j'en viens. Cette armée est en train d'être reconstituée, reformatée. Nous avons une armée dont on peut être fier de l'existence. Il faut maintenant la doter totalement des moyens de... son travail. Vous voyez, on a envoyé plus de 5000 tonnes d'armes. L'ambassadeur peut nous dire quel type d'armes ils t'ont envoyé. Vous savez que l'embargo a fait un distinguo. Vous n'aurez des armes que jusqu'à des calibres 14. Ce sont ces petits canons fluets. C'est des mitrailleuses lourdes, si vous voulez. Pas de mortier. Je ne suis pas spécialiste de la guerre, hein. Mais lorsque, au temps de Patassé, lorsque j'y étais, lorsque toute l'armerie du camp Kassai lors de la mutinerie a été enlevée, c'était l'artillerie lourde qui a été enlevée. J'ai posé la question à Nakoune, qui était chef d'état-major de Patassé, particulier de Patassé. S'il vous plaît, permettez. Mais pour que vous ne pouvez pas reprendre le dossier, dit que non, mais on n'a pas d'armes lourdes. On n'a que des calas. Si vous n'avez pas d'armes lourdes, vous n'allez pas affronter des gens qui en ont. Et ces groupes armés disposent d'armes lourdes. On ne va pas envoyer nos militaires à la boucherie. C'est pourquoi, ce que je crois savoir, Touadéra est en train de négocier pour avoir ces armes lourdes-là qui lui permettraient d'avoir un armement consolidé. J'en viens maintenant à l'engagement. Vous savez, la logistique, selon ce que je sais, reste insuffisante. Néanmoins, il y a des groupes, il y a des militaires qui ont été détachés à Kakabandro, détachés dans la zone de Luampendé. À Proba en particulier.
Mais leur détaché, mission reste quand même
un problème. Ces militaires font du bon travail. Soyons fiers de nos militaires qui se défendent, qui aident la MINUSCA. Parce que, ça je conseille avec vous, c'est la MINUSCA qui dispose de la logistique. Vous enlevez la logistique de la MINUSCA que cette, notre armée ne ferait pas deux jours sur le terrain. Il faut dire ces vérités. Ce n'est pas M. l'ambassadeur qui me démentirait. Vous enlevez la logistique, la MINUSCA, que notre armée ne ferait pas deux jours sur le terrain. Donc vous savez, ce sont des problèmes très sensibles. Surtout lorsque la vie humaine, la vie du peuple centrafricain est en jeu. Donc reconnaissons qu'un effort a été fait par ce président qui a fait en sorte que nous ayons maintenant une armée digne de ce nom à qui il manque quelques moyens.
Okay,
mais croyez-moi, je reviens à ce problème.
Non, à vous écouter, j'ai envie de vous poser une question. Quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée de l'aguerrissement de l'armée dont vous évoquez ici? La valeur ajoutée, c'est quoi?
Dès lors qu'on continue de tuer les Sud-Africains. Cette armée est engagée auprès de la MINUSCA, Iguerroa, à l'ouest. Parlons des groupes armés. Parce que, à moins que vous arriviez à cette question, parlons des groupes armés. Vous savez qu'il y a eu l'engagement de la MINUSCA, du moins de notre armée, auprès de la MINUSCA pour faire entendre raison à Sidiki, qui a compris son intérêt à revenir à la table de négociation.
Mais jusque-là, sa capacité militaire n'est pas réduite.
C'est vous qui le dites. Sans cela, il ne viendrait pas. Vous savez, lorsque je parle de rapport de force, si Sidiki disposait des moyens létaux comme auparavant, Sidiki n'aurait pas entendu raison.
Ok, je vous ai compris. Maître Albert Pandak Bianimbi a écouté le ministre Songopé, y compris le député Misedio. Finalement, est-ce que c'est la communauté internationale qui alimente ou bien c'est finalement une carence de volonté politique au niveau centrafricain pour endiguer la crise?
Mais vous savez, ces pays qui nous ont mis sous embargo, qui profitent de leur position au Conseil de sécurité pour décider du sort et de la vie des membres des autres nations. Ces pays-là seraient quoi sans une armée forte? Rien du tout. Et ils nous empêchent. Vous savez que l'armée est la colonne vertébrale de l'État. C'est la force légitime à la disposition des autorités nationales. On vous enlève l'armée. Vous n'êtes plus un État normal. Vous êtes un État mollusque qui se traîne par terre. Est-ce que vous voyez le problème? Et quel est l'intérêt de continuer à nous maintenir sous embargo, alors que nous savons parfaitement que ces groupes armés s'alimentent en armes de tout calibre, y compris armes lourdes. Vous venez avec vos petits calas, l'autre a des armes lourdes, vous allez faire quoi? Mais quel est l'intérêt de cette communauté internationale à nous garder d'année en année sous embargo? Les Africains eux-mêmes, CDAO, CAC, je pense ECMAC s'étaient réunis pour demander qu'on lève l'embargo, qu'on nous donne la capacité de nous défendre. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui dit qu'il vient, il y a des problèmes, il vient vous aider, il vous prend les deux mains, il vous tient dans le dos et l'autre vous boxe. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ça doit continuer? Ce n'est pas normal. C'est contraire même aux instruments juridiques internationaux. C'est contraire aux instruments juridiques. Mais les gens qui interviennent dans notre pays, ils ont un agenda caché. Ils utilisent les instruments du droit international que leur offre la Charte des Nations Unies pour faire de nous ce qu'ils veulent.
Ok. Honorable Misedio a écouté le ministre Sorongopé et le développement de Maître Albert Pandak Bianimbi. Finalement, quelle est la responsabilité aujourd'hui du gouvernement et de la communauté internationale pour que la crise soit économisée?
Je reconfirme ma position. L'électeur que je suis, le centrafricain que je suis, pense que la sécurité nationale est du ressort du gouvernement centrafricain. La sécurité nationale est de la responsabilité du président de la République qui a prêté serment. Bon, maintenant, comment faire pour que les facilitateurs, les garants, tous ceux dont on parle ici, là, arrivent à nous aider à gérer la situation? Cela est de la responsabilité des Centrafricains, je veux dire du président de la République, du gouvernement. Parce que c'est au président de la République, c'est au gouvernement de demander, d'imposer, de dire ce que nous voulons. Non, tout à l'heure j'ai donné un exemple simple. Je suis étonné que des Centrafricains arrivent à défendre une position comme celle-là. J'ai posé une question simple. Une frontière, Bambouti est une frontière avec le Sud-Soudan qui est un pays en guerre. Faille-t-il attendre que l'embargo soit levé pour envoyer ne serait-ce que quelques... On a parlé de 4 bataillons ici. Ne serait-ce qu'une ou deux sections à Bambouti pour assurer la sécurité à cette frontière? Non, mais soyons sérieux. Nous allons continuer à dire, on nous attache, on nous baillonne, ainsi de suite. Pendant ce temps, on fait entrer toutes sortes de pilleurs partout, qui prennent le diamant centrafricain, la richesse centrafricaine, qui s'en vont avec. Et nous sommes là, nous pleurons. Nous demandons toujours à ce qu'on nous donne les armes. Mais il faudrait qu'on arrive à assurer notre souveraineté. Notre souveraineté passe par l'achat des armes. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive, nous, à acheter les armes dont on a besoin. Récemment, on a reçu ici Kagame. Vous savez comment il a fait pour assurer ses frontières? Ah non. Il faudrait que celui sur qui les Centrafricains comptent, celui que les Centrafricains ont élu, celui qui a prêté serment qu'il va protéger les Centrafricains, qu'il va assurer la sécurité des Centrafricains, celui qui est garant de la sécurité nationale, celui qui est garant de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, puisse trouver des solutions. C'est de ça qu'on a besoin. Je ne vais pas aller accuser les voisins. Tant que celui qui est responsable, qui est le propriétaire même, c'est-à-dire le maître de la maison, n'arrive pas à trouver une petite solution à ces problèmes. Non, je vous ai dit tout à l'heure, à Obo par exemple, à Obo, les FAKA qu'on a envoyés là-bas, ils ne sont pas nombreux. Mais lorsqu'il y a un problème, ce sont ceux-là qui arrivent à entrer dans la brousse. S'il n'y avait pas les FAKA à Obo, Obo serait tombé depuis. Okay. Obo serait tombé depuis. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche, par exemple, le ministère de la Défense ou l'état-major à venir, ne serait-ce qu'à assurer les moyens logistiques pour leur déplacement seulement? Qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Vous pensez que ça aussi, nous devons compter sur la communauté internationale? Je voudrais bien croire que l'arrivée de la MINUSCA en République centrafricaine devrait nous aider à endiguer ces violences, etc. Mais sans notre volonté à nous, sans la volonté du gouvernement centrafricain, sans la volonté du président Touadéra de vraiment faire partir les malfrats de la République centrafricaine, les Ali Daras qui ne sont pas centrafricains, les Sidiki qui ne sont pas centrafricains, qui sont en train de lui dicter leur volonté. Sans la volonté de les faire partir, on n'arrivera à rien, mais à rien du tout. On va tourner comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, sans trouver une petite solution.
Ok, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, Ali Daras parvient à sortir de son périmètre, alors qu'il y a des dispositions de l'accord qui interdisent cette manière de faire. Alors, devant cette situation, est-ce que l'évaluation faite par les garants et les facilitateurs qui préconisent aujourd'hui un régime de sanctions, jusqu'où ces dispositions vont entrer en vigueur pour recadrer et encourager un désarmement forcé des groupes armés?
Bon, je crois que le désarmement forcé, on n'y est pas encore. Puisque pour désarmer par force, il faudrait une force supérieure. Et vous en convenez avec moi que cette force n'existe pas encore. Mais
avec 12 000 hommes de la MINUSCA.
Mais tout dépend des termes de l'engagement. La MINUSCA n'est pas venue faire la guerre aux groupes armés. Je ne cesse de le répéter. La MINUSCA est venue épauler le gouvernement pour négocier un accord de paix durable. Ça, je crois que je l'ai répété à plusieurs fois. Donc, il ne faut pas vraiment se tromper de mandat. Je ne suis pas de la MINUSCA, mais au moins je connais leur mandat. En gros, pas dans les détails, la MINUSCA n'est pas venue faire la guerre aux groupes armés. Elle est venue épauler le gouvernement. Donc, c'est la force légitime du gouvernement pour négocier un accord de paix durable, parce que la communauté internationale n'est pas pour une confrontation. Ça, je suis désolé de le répéter. Parce que vous pouvez aujourd'hui battre Ali Daras, demain, le fils d'Ali Daras peut revenir armé. C'est pas ça que la communauté internationale cherche. La communauté cherche une paix durable. Quant à sa sortie actuelle, comme vous l'avez dit dans l'introduction, nous avons condamné cette sortie et nous sommes en train de discuter avec le gouvernement et la MINUSCA pour aller lui faire comprendre qu'il doit retourner dans ses dimensions en attendant le DDR.
Ok, maître Albert Panda, vous avez suivi cette argumentation. Oui. Alors finalement, est-ce que c'est la faute du gouvernement ou c'est la faute de la communauté internationale? Puisque d'un côté, le gouvernement a les moyens, mais le gouvernement ne veut pas aller à l'affrontement. De l'autre côté, c'est la MINUSCA, mais la MINUSCA, son mandat ne lui permet pas de faire la guerre. Finalement, c'est quoi?
L'honorable député d'Obo me permettra
de ne pas être d'accord avec lui. Si l'analyse d'une situation donnée n'est pas correctement faite, on se trompe d'acteur responsable de telle ou telle situation. Donc là, monsieur l'ambassadeur a dit quelque chose de très très important. J'ai noté, tout dépend des termes de l'engagement. Et la MINUSCA est là pour nous accompagner à obtenir un accord de paix durable avec les groupes armés. Mais ce n'est pas pour faire la guerre, ce n'est pas pour combattre les groupes armés. Donc, quand il y a une situation, la MINUSCA intervient un peu pour secouer et puis on invite...
C'est comme le cas à Kui...
Ah oui, c'est ça. Donc, il y a eu la, mais il y a eu la négociation qui s'est tenue à boire, on a eu des échos. Donc, si la MINUSCA intervient là-bas, parce que je ne suis pas d'accord, le gouvernement n'a pas les mains libres. N'a pas les mains libres. Et c'est ça ce que nous savons. Donc, les résolutions des Nations Unies sont des normes supérieures qui enferrent un peu le gouvernement. On nous dit qu'ils ne sont pas là pour faire la guerre. Et la MINUSCA est la force légitime du gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas la possibilité d'aller au-delà de ce que veut la communauté internationale. Monsieur Darassa a été nommé à un haut poste à Bambari. Qui est allé l'installer? Nous avons dit, la société civile, l'introniser. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour le maintien de la paix. Et le commissaire...
Paix et sécurité de l'Union africaine.
De l'Union africaine. Donc vous voyez, il bénéficie, mais là on l'a adoubé. Il bénéficie, il se sent fort. Il fait tout ce qu'il fait là. Parce qu'il sait que la communauté internationale, voilà, va pas aller au-delà de certaines choses. Si on le bouscule un peu, c'est pour l'amener à la table de négociation pour une paix durable. Bon, vous savez, la position de Centrafricain, de la société civile, ben, il y a eu le forum de Bangui. Il y avait un plan de sortie de crise, DDRR. Mais la communauté internationale ne veut pas de cette formule.
Comment ça, la communauté internationale a financé le processus?
Non,
reste aujourd'hui au gouvernement de mettre en musique ce que la communauté internationale...
La communauté internationale, si elle voulait du processus, il n'y aurait pas eu l'accord de Khartoum. On serait allé au DDRR directement.
Mais la situation sécuritaire sur le terrain, contraire à la communauté internationale, a conseillé au gouvernement d'aller vers les négociations de paix.
Écoutez, j'ai suivi tout à l'heure le député de Ngaoundaï. On sait par où, et même quand notre honorable député de Obo a parlé, il y a des voies par lesquelles les armes peuvent entrer. Là, bon, écoutez, on est dans un monde moderne, il y a les satellites, il y a tout. La MINUSCA a les moyens, comprend, connaît tous ces trucs, peut verrouiller ces points. Et nous savons que des armes rentrent et les groupes armés disposent d'armes lourdes. Des armes rentrent par le Tchad, par le Soudan, par etc. Et les FACA sont encore sous embargo. N'ont pas d'armes lourdes. Donc vous voyez le déséquilibre qu'on entretient, que cette communauté internationale entretient. Donc nous, le peuple centrafricain était pour le DDR. C'est des gens qui ne comprennent qu'un seul langage. C'est le langage de la force. Où tu es plus fort qu'eux, ils te respectent. Ou ils sentent que tu es faible, ils te montent sur la tête. C'est ce qui est en train de se passer. Et interrogeons-nous. Quel est le point commun entre Darassa et Sidiki? Ils sont des étrangers. Ils ne sont pas centrafricains. Ça, tout le monde le sait. Personne ne nous démentira. Mais qu'ils aillent nous montrer le village de leur père, de leur grand-père en Centrafrique.
Comme tous les peuls d'ailleurs.
Non, il y a des peuls centrafricains. Mais ceux-là viennent d'ailleurs. Et ils malmènent même les peuls centrafricains. Ils les tuent. Ils les pillent. Bon, ces gens, ils sont ici, pourquoi? Et ils disent qu'ils viennent pour défendre les intérêts de la communauté peul. Il ne peut pas y avoir deux crocodiles dans une même mare. Il ne peut pas y avoir l'État centrafricain avec notre chef d'État, l'Assemblée, et tout ça, l'État centrafricain avec ses institutions. Et un tartampion qui sort, qui dit qu'il vient défendre les intérêts de telle communauté. Donc maintenant, il y a un qui va se lever, va défendre les intérêts de je ne sais enfin, quel groupe ethnique, quel groupe social, où est-ce qu'on va aller dans ce désordre? Et la communauté internationale cautionne, ça peut se faire chez eux,
Mais maître, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le chef de l'État, il est le chef suprême des armées, comme on le dit la Constitution. Et étant chef suprême des armées, quand on envoie les militaires sur le terrain, les militaires doivent avoir une lettre de mission avec des objectifs précis. Est-ce c'est le cas aujourd'hui? Parce que une chose est de bien croire que la communauté internationale ne joue pas franc jeu, mais une autre est de voir aujourd'hui réellement, avec l'aguerrissement de plus de 4 bataillons, avec les moyens bien à leur disposition, ils peuvent quand même circoncire une zone donnée comme la Waka et empêcher Ali Darassa de sortir de son périmètre.
Bien, vous savez, risque de me répéter. Je remercie Maître Panda d'avoir brossé un tableau de la communauté internationale. Vous voyez, dans tous les pays où il y a des conflits, il y a
donc,
des confrontations,
le problème, s'il vous plaît, internationale.
Permettez que je réponde à votre question. Non, je vais nuancer, permettez. Les pays qui sont en crise militaire, je citerai le Burkina, le Niger, le Mali, j'en passe bien d'autres, critiquent la position de la communauté internationale et souhaiteraient qu'il y ait d'autres partenaires pour les appuyer dans leur lutte. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a comme l'impression que la communauté internationale aurait pu mieux faire. Vous savez, la MINUSCA, j'aime pas trop lancer le caillou à la MINUSCA. La MINUSCA ne joue que sous le mandat de la communauté internationale. D'ailleurs, le représentant du secrétaire général est à New York actuellement. Il se bat pour que le mandat de la MINUSCA puisse être renforcé. Pourquoi?
Ce mandat a déjà été renforcé en plaçant le mandat sous le chapitre 7 de l'ONU.
Renforcé combien de fois?
C'est trop facile. Vous savez, nos frères sénégalais aimeraient bien nous aider. C'est des Africains, ils aimeraient bien nous aider. Mais ils ont aussi les bras pliés par la fameuse communauté internationale. Vous savez, la communauté internationale, quelques 3 ou 4 personnes qui dirigent cette communauté internationale. Hein? Personne morale, bien sûr. Bon, monsieur n'est secret pour personne. Bon, je reviens au problème de rapport de force. Je le dis bien. Donnons-nous les forces. Mettons le rapport en notre faveur. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Vous savez, lorsqu'il y a eu allègement de l'embargo, je suis financier, je sais que l'État disposait de 9 milliards à la BEAC pour acheter des armes. C'est pour dire qu'il y avait les moyens. Informez-vous, chers collègues, disposez de 9 milliards. Je ne trahis pas, je suis financier, je dis ce que je pense, je suis un homme libre, je ne suis pas fonctionnaire. Et je sais que cet argent aurait pu servir à acheter des armes. Malheureusement, l'embargo n'a pas permis d'acheter ces armes-là. Et les Russes ont donné des armes gratuitement. Ça aussi, c'est une vérité.
Oui, c'est une vérité. Mais l'État a acquis les armes.
Cela signifie, les Russes ont donné gratuitement, me semble-t-il. Cela signifie que nous disposons, malgré notre faiblesse, nous disposons d'un volant d'action pour acquérir ces armes-là. Vendez des armes à Touadéra. Enlevez d'abord l'embargo parce que nous sommes un État pas voyou. Touadéra n'irait pas sur le marché comme Ali Daras achetait des armes. Nous nous décrédibilisons. Croyez-moi, je citerai le cas de Kagame. Kagame a eu le soutien de l'Ouganda. Et surtout, après qu'il ait pris le pouvoir, le soutien des Américains et des Britanniques qui ont formé ces hommes, qui l'ont alimenté en armes. Kagame n'est pas allé sur les marchés noirs pour acheter ces armes-là. Nous le savons. Vous savez, je fuine beaucoup. En tant que vieux, je fuine beaucoup pour savoir.
Ok, monsieur le ministre, nous avons compris votre développement. L'honorable, finalement, est-ce que la politique du gouvernement n'est-elle pas cousue de fil blanc?
Il y a une chose, je voudrais réagir par rapport à la situation de l'embargo, premièrement, et par rapport à ce que disent les uns et les autres par rapport à la situation du gouvernement qui aurait les mains liées. La Constitution donne au gouvernement la possibilité justement d'avoir des accords avec
États.
Des États. Dans la Constitution, à l'article 29, le chef de l'État, le président de la République précisément, peut avoir recours à des accords de coopération militaire avec d'autres pays. C'est ce que Kagame a fait. Kagame a eu à travailler avec l'Ouganda pour arriver à endiguer justement l'insécurité au Rwanda. Mais qu'est-ce qui empêche la République centrafricaine de le faire? Bien. Deuxièmement, oui. Mais il faudrait.
C'est ce qui se fait, hein?
Il s'agit de la responsabilité de celui qui a prêté serment de défendre l'intégrité territoriale. Moi, je reviens là-dessus. Moi, je n'accuse personne. J'accuse celui qui a prêté serment, qui a dit « Je vais défendre l'intégrité territoriale, je vais assurer la sécurité des Centrafricains » et ainsi de suite. En parlant d'embargo, vous êtes sans ignorer que depuis 2016, il y a eu levée partielle d'embargo sur les armes en République centrafricaine. Notamment en ce qui concerne la lutte contre la LRA, justement dans le Ombomo. Alors, ce qui veut dire que, normalement, le Ombomo devait être en sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Allez à Mboki. C'est Mboki qui est aujourd'hui l'usine même de fabrication des rebelles. Les éléments de l'UPC sont là et toutes sortes de malfrats se trouvent à Mboki. Les Djadjawites sont à Mboki. Les Soudanais de je ne sais pas quel bord viennent, ils sont à Mboki. Les Tchadiens sont à Mboki. Et c'est de là qu'ils partent pour aller commettre les exactions un peu partout dans le Ombomo. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens, quand on était encore à la 5e législature, c'est le président actuel qui était premier ministre, chef du gouvernement. Il y avait des armes, puisque nous avons appris qu'à Bossembélé, les Séléka ont trouvé les armes. Et sans ces armes-là, les Séléka n'auraient jamais pris la République centrafricaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas donné ces armes-là au FACA? On a trouvé 17 conteneurs d'armes à Bossembélé. On a trouvé 7 conteneurs d'armes à Benzambé. Touadéra était premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces armes-là, ce sont ces armes qui ont tué les Centrafricains. Il y avait des armes. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est la continuité. En fait, il s'agit d'un manque criard de volonté politique pour arriver à finir avec ces massacres qui sont perpétrés partout en République centrafricaine.
Un manque criard, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, la communauté internationale ne s'est-elle pas fait tirer une balle dans les pieds en se cachant derrière des engagements, des lettres d'engagement et des accords qui, in fine, ne sont pas respectés?
Si vous permettez, je voudrais d'abord revenir sur l'intervention du député. C'est quand même grave qu'il se fige sur la Constitution alors qu'il sait qu'il y a les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République, malgré sa bonne volonté, ne peut pas aller au-delà des résolutions du Conseil de sécurité. Il faut quand même être honnête dans son jugement. Et quand vous évoquez les armes de la 5e législature, dans tous les pays du monde, c'est le président de la République qui est chef des armées, pas le premier ministre. Il faut quand même clarifier les choses. Maintenant, la communauté nationale ne sait pas tirer une balle dans les mains. Ce sont des dispositifs qui existent depuis la naissance des Nations Unies. Quand le gouvernement centrafricain de transition s'est engagé à appeler la MINUSCA, il savait à quoi il s'engageait. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait regarder en face la MONUSCO de l'époque, vous voyez. Mais là, il y a quand même une indication. Comment se peut-il que des armes peuvent être entassées quelque part, 17 conteneurs, 7 conteneurs quelque part, alors que les FACA sont menus? On n'était pas à cette époque. C'est tout cela que le président Touadéra essaie de corriger, mais ça prend du temps.
Ça prend du temps, entre-temps, le peuple meurt.
Je suis d'accord avec vous et ça m'en fait de la peine. Mais il faut que maintenant, les institutions centrafricaines, pas seulement le président de la République, l'Assemblée aussi, le gouvernement, assume ses responsabilités et travaille plutôt dans le sens de la correction.
Ok, que le gouvernement...
Si tu permets, juste, on a parlé des étrangers. Mais Ali Daras a été amené par qui?
Voilà.
Je suis désolé, il faut que les Centrafricains aussi se disent la vérité. Je crois que la plupart des étrangers sont venus avec la connivence des Centrafricains.
Ok, que les institutions et le pouvoir s'assument, c'est quoi aujourd'hui le problème? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est parce que nous, Centrafricains, nous ne nous assumons pas?
Mais je ne pourrais pas laisser ça passer. Il faudrait que l'histoire de la République centrafricaine soit restituée dans ce qu'elle a été. Moi, j'ai toujours affirmé, et j'ai des éléments pour le prouver, ce ne sont pas les Séléka qui ont pris Bangui. Séléka étaient contenus sur la route de Damara. Ce sont les forces spéciales d'un pays voisin qui sont arrivées, hein, et qui sont entrées sur le territoire centrafricain, sont arrivées jusqu'à Bossembélé, ont pris même une bonne partie de nos conteneurs d'armes, ont retourné ça chez eux. Et vous voyez, ils sont venus prendre Bangui. Et c'était la deuxième fois que ça se passait. Donc, il faudrait que nous, Centrafricains, nous connaissions l'histoire de notre pays. Il y a ce qu'on nous dit, les Séléka ont pris, ok. Mais des gens sont venus leur ouvrir la porte. Le deuxième élément que je... Ben, vous savez, la communauté internationale. Ben, tout ça, c'est sous le couvert de cette communauté internationale qui a provoqué cette crise-là chez nous et nous a amené dans cette situation. Il y avait des problèmes politiques dans notre pays. Est-ce qu'on avait besoin de tout cela pour nous amener là où nous sommes actuellement? 6 ans après, on continue de souffrir. Interrogeons-nous. Vous voyez, il y a un pays qui connaît la même situation
même
que nous.
Même configuration.
Oui, c'est le Mali. Mais là-bas, les gens se sont levés pour dire « Nous ne voulons plus que les forces de la MINUSMA partent. » Et que même, on a cité les forces d'un pays donné, quitte le pays. Parce que tant que ces gens resteront là, nous n'aurons pas la paix. Ça, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue qui n'engage que moi. Parce que c'est eux qui créent la situation, alimentent les crises. Et nous ici, les Centrafricains se sont levés avec l'ACOSO, etc. Le mouvement pour dire, on ne veut pas que la MINUSCA nous laisse en paix. Parte. Et je crois que la solution, ça sera le départ de la MINUSCA, disons en RDC. Mais ils sont là depuis 20 ans. On leur demande de partir, ils ne veulent pas. C'est quoi le problème? Tant que ces forces-là resteront là, elles ont le moyen pour réduire tous ces gens. Mais elles ne veulent pas. Il suffit qu'un hélicoptère, moi je ne suis pas spécialiste, mais que des hélicoptères de combat se lèvent sur ces... Ils sont combien à l'autre, la Bambouti? Ça se règle en 2 temps, 3 mouvements. Hein? On ne veut pas. On ne veut pas. Voilà la situation. On ne veut pas. Pourquoi? Parce que la RCA, malheureusement, est un pays immensément riche et ça suscite des convoitises. Et ça devient un terrain de lutte d'influence, de lutte géostratégique, etc. Tant pis pour nous si on nous tue.
tant pis pour nous si on nous tue. Mais la République centrafricaine attend un grand rendez-vous d'ici décembre 2020. Est-ce que vous pensez qu'avec l'allure où vont les choses, ce rendez-vous électoral sera quelque chose...
Je reviens sur le problème sécuritaire. Hein. Je crois que soyons unis pour que notre pays dispose d'une armée forte, non seulement avec les hommes, mais avec l'armement adéquat. C'est cela qui va assurer notre souveraineté et non les lettres de la Constitution. Deuxièmement, le dernier point...
Donc l'Union en marchant sur la Constitution,
oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce sont les centrafricains qui ont fait venir les étrangers. Un jour, il faudra que nous posions la problématique de ce que la question nationale. La question nationale. Il faudra qu'au niveau des institutions, de l'Assemblée nationale, du corps social entier, nous posions la question, le problème de la question nationale. Qui nous sommes? Comment nous allons accueillir nos frères africains? Parce que je ne suis pas de ceux qui disent, nous n'aimons pas, nous ne sommes que des centrafricains tout seuls. Non, nous pouvons aussi accueillir ceux de l'extérieur, mais que ceux qui viennent à nous ne s'imposent pas par les armes. C'est ça que nous ne voulons pas. On peut naturaliser des Nigériens centrafricains. On peut naturaliser n'importe qui centrafricain. Des gens de bonne moralité. Comment cela doit se faire? C'est le rôle de l'Assemblée nationale. Comment cela doit se faire? Posons la question. Nous allons nous poser un jour la question nationale. Comment appréhender la question nationale?
La question nationale, nous tendons vers la fin de notre émission. Honorable, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la vraie solution au problème centrafricain passe par la question nationale?
J'ai dit tout à l'heure que la solution vient de la volonté nationale. Il faudrait que nous-mêmes, nous centrafricains, on arrive à trouver véritablement des solutions à nos problèmes. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure, mon voisin de gauche a dit tout à l'heure que je me focalise trop sur la Constitution. Nous n'avons que ça comme loi suprême. Oui, parce que c'est la Constitution justement qui nous permet de fonctionner en tant qu'État. Parce que la République centrafricaine, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, est un État souverain. Et donc dans sa souveraineté, il faudrait que la République centrafricaine arrive à prendre des décisions souveraines afin de pouvoir sortir de cette ornière-là. C'est pour cela que je suis d'accord avec monsieur...
Maître Panda,
quand il parle de la communauté internationale et qu'il dit que la communauté internationale ne peut pas nous aider ou ne veut pas nous aider. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas parce que la communauté internationale ne veut pas nous aider, c'est parce que nous ne forçons pas la communauté internationale à nous aider. Parce que les solutions doivent venir de nous. C'est à nous de dire ce que nous voulons et d'imposer ce que nous voulons. En réalité, la MINUSCA est là, la MINUSCA a des moyens pour frapper, ainsi de suite. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, la MINUSCA a les moyens pour frapper. Mais la mission de la MINUSCA, le calendrier de la MINUSCA, nous ne maîtrisons pas ce calendrier. Alors, à partir de ce moment-là, si nous ne maîtrisons pas le calendrier de la MINUSCA, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous-mêmes, nous devons arriver à établir notre calendrier parce que c'est de nous qu'il s'agit. C'est des centrafricains qu'il s'agit. C'est du territoire centrafricain qu'il s'agit. Ce n'est pas du territoire tchadien, français ou, je ne sais pas, américain. Il s'agit du territoire centrafricain. Il s'agit des citoyens centrafricains. Il s'agit du peuple centrafricain. Donc, à partir de ce moment-là, c'est aux centrafricains de penser la solution aux difficultés centrafricaines, aux problèmes d'insécurité qui sévit en République centrafricaine.
Ok, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Monsieur l'ambassadeur, vous pensez qu'aujourd'hui, la solution viendra de la question nationale, comme dit le ministre Sorongopé?
C'est une des questions, mais la solution ne peut pas venir seulement de la question nationale. Aujourd'hui, le monde est globalisé, si je peux dire. Vous ne pouvez pas vivre
à l'autarcie.
Nous sommes complémentaires les uns les autres. C'est vrai, la question nationale est importante, mais je crois que la coopération internationale aussi est nécessaire.
Maître Albert Panda.
Oui, je voulais dire, pour rebondir sur ce qu'a déclaré M. Sorongopé, le problème à nous, centrafricains, c'est de savoir nous regrouper, régler nos problèmes. Mais comme dans une famille, vous avez un problème dans votre concession, vous allez appeler les Godobés je ne sais où, vous dites venez m'aider, mais les Godobés vont tout casser. C'est ce que nous avons connu, c'est ce qu'on peut en tirer. Regroupons-nous, soyons unis. Ce n'est pas pour rien que le président Boganda a mis comme terme de notre devise l'unité. C'est en étant unis qu'on est fort. Si on était unis là, on dit aujourd'hui à la MINUSCA là, c'est fini, vous partez, vous partez.
Il y a des pays qui l'ont fait. Il y a des pays qui ont demandé aux forces des Nations Unies de quitter. Mais parce qu'il faut d'abord qu'il y ait l'unité, qu'on s'entende entre nous, qu'on soit fort. Mais deuxièmement, l'ambassadeur a dit quelque chose, je pense que j'ai passé inaperçu. Il dit, mais c'est nous-mêmes qui sommes allés demander à la...
MINUSCA.
À la Nations Unies d'intervenir. Mais nous n'avons pas vu ce qui se passait à côté. Je sais que des chefs d'État avaient déconseillé à certains chefs d'État, ne laissez pas les Nations Unies venir dans votre pays. Ça, ça a été notre erreur. Alors, à partir du moment où c'est notre erreur, quand on s'est trompé, on en prend conscience, on dit aux gens, on s'est trompé, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous aider à rétablir l'ordre, la sécurité dans notre pays, puisque vous n'êtes pas venus faire la guerre. Mais on a en face des gens qui ne comprennent qu'un seul langage, la force. Vous vous dites que vous venez nous aider à négocier avec eux pour une paix durable, avec des bandits qui ne respectent rien. Voilà la contradiction dans laquelle on est. Donc, voilà ce que je pourrais ajouter sur ce point.
C'est sur ce développement que se termine notre émission en langue française. Nous remercions Maître Albert Panda Bien-Aimé de participer à cette émission consacrée au rôle des facilitateurs et garants de l'accord de paix. Merci aussi à M. Eric Sorongope Zoumanzi du MNS qui représente aujourd'hui le pouvoir pour avoir débattu avec nous. Merci aussi à l'honorable Ernest Misedjo, député URCIA de Obo. Et merci aussi à l'ambassadeur Adolphe Nayo d'avoir participé à cette émission. Émission Patara, nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain, même heure, même fréquence.